L'automne 2023 au Québec a été marqué par la longue grève des enseignants et enseignantes, et on retrouvait dans le Front commun syndical la CSQ, la centrale des syndicats du Québec. La CSQ représente aujourd'hui des gens de beaucoup de différents domaines, mais elle a été fondée en tant que syndicat d'enseignants et d'enseignantes. D'ailleurs, elle s'est appelée la centrale de l'enseignement du Québec des années 1970 aux années 2000. Une chose intéressante à propos de la CSQ, c'est que cette grande organisation fait remonter ses origines à une association d'enseignantes de campagne qui a vu le jour dans les années 1930 dans la région de Charlevoix. Et sa fondatrice, c'est une femme trop peu connue qui s'appelait Laure Gaudreau. Elle est née en 1889 à la Malbaie, elle grandit sur une terre, et celle qui a consacré sa vie à la défense des intérêts des institutrices, tout particulièrement celle des écoles de rang du Québec, n'a elle-même jamais étudié dans une de ces écoles. Il n'y en avait pas dans le rang où Laure Gaudreau a vécu. Mais ses parents étaient tous les deux lettrés, ce qui est quand même notable pour des Canadiens des classes populaires à la fin du 19e siècle. Et sa mère, Madeleine Bergeron, en plus de tenir maison et d'élever ses enfants, leur faisait la classe. Ce n'est qu'à l'âge de 13 ans que la jeune fille débute son éducation formelle en fréquentant le couvent de la Malbaie grâce au soutien financier de sa marraine, qui était enseignante. Il faut dire que l'enseignement coulait dans les veines de Laure Gaudreau. Il y a une ambiguïté dans les informations que j'ai lues. Mais si j'ai bien compris, 8 de ses tantes et 2 de ses sœurs, sans compter sa mère, ont pratiqué le métier d'institutrice. À 16 ans, elle entre à l'École normale Laval de Québec, donc une école de formation des enseignantes, grâce à une bourse du gouvernement. Et je fais une parenthèse à propos des écoles normales. Elles existaient depuis les années 1850, mais rares étaient les femmes qui passaient par là encore au début du 20e siècle. On n'avait pas assez d'écoles normales pour former le nombre d'institutrices requises pour occuper toutes les écoles de rang de la province, surtout que les femmes faisaient rarement de longues carrières. On commençait à 16 ou à 17 ans et on prenait généralement notre retraite au moment de nos fiançailles ou de notre mariage et on se mariait souvent assez jeune à ce moment-là. La grande majorité des enseignantes laïques du Québec ne suivaient pas de formation en pédagogie, elles obtenaient simplement leur brevet d'enseignement en passant un examen. Et si on lit entre les lignes, on comprend que les standards académiques exigés pour obtenir un brevet d'enseignement pouvaient varier en fonction des besoins. L'objectif, semble-t-il, sans qu'on le dise de cette manière-là, c'était d'avoir une adulte, ou à tout le moins une adolescente, dans chaque classe. Il me semble avoir entendu cette même formule-là il n'y a pas si longtemps. Enfin, revenons à Laure Gaudreau. Elle fait partie de celles qui ont étudié en enseignement. Et au terme de ses études, en 1906, du haut de ses 17 ans, elle prend la charge d'une classe de 48 élèves dans une école des éboulements. Elle était payée 125 $ par année pour le faire. On avance dans le temps. En 1929, alors qu'elle avait pris une pause de l'enseignement en raison de problèmes de santé, Gaudreau accepte un poste au journal Le Progrès du Saguenay, dont les bureaux se trouvaient à Chicoutimi. Elle faisait du secrétariat en plus de diriger la page des femmes et la page des enfants de ce qui était à ce moment-là un quotidien. Tous les journaux, ou presque à l'époque, avait des pages féminines et des pages enfantines. C'était souvent le seul endroit où on pouvait lire des femmes journalistes. Ça prenait des hommes pour couvrir les sujets sérieux, c'est-à-dire tout le reste. Un des sujets de prédilection de Laure Gaudreau dans ses écrits, c'est les conditions de vie des institutrices du Canada français, qui sont franchement déplorables. Selon un rapport publié par le surintendant de l'instruction publique en 1936, on avait un surintendant de l'instruction publique à ce moment-là et non un ministre de l'Éducation. Le ministère de l'Éducation du Québec existe seulement depuis 1964. Donc, en 1936, le Québec comptait 9000 institutrices laïques et plus de 7000 d'entre elles gagnaient moins de 300 $ par an. Et de ce 7000, il y en a 2000 qui étaient sous la barre du 200 $. Donc, elles gagnaient à toute fin pratique le même salaire que Laure Gaudreau à ses débuts 30 ans plus tôt. Et comme si ce n'était pas assez, je vous cite un texte de Gaudreau d'avril 1936. « La petite institutrice rurale qui commençait à relever un peu la tête depuis que le comité catholique de l'instruction publique a fixé à 300 $ le salaire minimum, recommence à courber le front depuis que les journaux nous ont appris que l'honorable secrétaire provincial doit proposer à la législature un amendement à l'effet de réduire à 250 $ ce salaire minimum. » Le secrétaire provincial, c'est un super ministre qui s'occupait des différents dossiers qui n'étaient sous la responsabilité d'aucun ministre en titre. Donc, on proposait un salaire minimum de 300 $ par an, mais le gouvernement trouvait que c'était encore trop, et la solution, selon Gaudreau, c'était de s'unir pour faire valoir nos droits. Dans une autre chronique du Progrès du Saguenay, elle va poser les bases d'une grande association d'institutrices rurales qui pourrait s'associer aux institutrices des villes pour former un grand regroupement de la profession. J'en jette ici l'idée comme une semence et je voudrais tant qu'elle tombât dans un terrain propice à son développement. Et elle se disait prête à collaborer avec celui qui serait l'apôtre et le promoteur de pareille association. On va lui répondre que la personne idéale pour lancer le projet, c'était elle. En novembre 1936, une trentaine d'enseignantes de Charlevoix-Est se réunissent à Lamalbe pour jeter les bases du premier chapitre de ce qui deviendra la Fédération catholique des institutrices rurales de la province de Québec. Parce qu'évidemment, à ce moment-là, tout mouvement qui ressemblait un tant soit peu à un syndicat se devait d'être catholique. Le syndicalisme était associé au socialisme, au communisme. Ça prenait l'aura du clergé pour rendre le tout respectable. Et normalement, on s'assurait de mettre le mot catholique dans la raison sociale de l'organisation. C'est ce qui fait que la CSN, la Confédération des syndicats nationaux, s'est appelée la Confédération des travailleurs catholiques du Canada pendant ses 40 premières années d'existence et que l'UPA, l'Union des producteurs agricoles, a été fondée en tant qu'Union catholique des cultivateurs. La Fédération des institutrices rurales va réussir un premier coup d'éclat en 1937. Gaudreau envoie un télégramme au secrétaire de la province en lui disant « Nous serons en délégation à votre bureau demain après-midi, soyez-y ». Elle s'est invitée à rencontrer M. le ministre pour lui exposer la situation des enseignantes en région. Elle va lui dire notamment « Les institutrices rurales qui furent si longtemps passives, souffrant en silence mille incommodités et infortunes matérielles et morales, se sont mises en tête de se faire les avocates de leur propre cause ». Nous ne venons pas ici pour suivre la mode parce qu'il est chic de venir se balader au Parlement. Nous ne gagnons pas assez cher pour nous payer ce luxe. Très vite, 13 comités régionaux de la Fédération vont pousser aux quatre coins de la province et vont tenir leur premier congrès en juillet 1937. Au moment de la rentrée de septembre de cette année-là, Gaudreau prend une autre retraite de l'enseignement. Elle en avait déjà pris quelques-unes. En plus de présider la Fédération, elle en est la permanente. Chaque association régionale contribue pour qu'on puisse lui offrir un salaire annuel d'au moins 450 $. Et parmi ses tâches en tant que présidente et permanente, Laure Gaudreau va écrire dans le journal de la Fédération, poursuivant donc sa carrière de journaliste. C'est une publication qui permet notamment aux enseignantes de partager leurs mauvaises expériences. Et on y voit des choses complètement absurdes. C'est une période où des commissions scolaires enlevaient 50 sous par mois de la paye de leurs enseignantes parce que M. le curé venait visiter les enfants un matin par mois. Les professeurs ne faisaient rien ce matin-là, donc il y avait déduction de salaire. Souvent, c'est la pure mesquinerie de la part des commissaires d'école, de braves messieurs qui se plaisaient à exercer leur pouvoir sur, dans bien des cas, des adolescentes. Lorsque Laure Gaudreau parlait de « mille incommodités et infortunes matérielles et morales », on imagine le genre de forme que ça pouvait prendre. Les enseignantes avaient très peu de recours, à moins d'être soutenue par une association professionnelle. Moins de 10 ans après sa création, grâce notamment au travail acharné de Gaudreau qui a battu les routes, qui a fait le tour du Québec, la Fédération regroupait 69 associations régionales et représentait 7000 maîtresses d'école, comme on disait à ce moment-là, toutes recrutées individuellement. Personne ne devenait automatiquement membre de la Fédération et comme il y avait un gros roulement de personnel, c'était toujours à recommencer. En 1940, on assiste à la signature des deux premières conventions collectives entre des commissions scolaires et des associations locales membres de la Fédération. Mais là où les institutrices rurales vont faire des gains significatifs, c'est après l'adoption en 1944 par le gouvernement libéral d'Adélard Godbout de la loi des relations ouvrières qui obligeait les employeurs à négocier de bonne foi avec les syndicats et prévoyait des mécanismes d'arbitrage si on ne pouvait s'entendre. Alors que la Fédération donne consigne à ses membres d'exiger un salaire minimum de 600 $ par an, les tribunaux d'arbitrage vont donner raison aux institutrices dans cause, après cause, après cause. À un moment donné, le journal de la Fédération a arrêté de nommer les commissions scolaires qui avaient été déboutées en arbitrage. Il y en avait tout simplement trop. Le gouvernement de Maurice Duplessis, qui succède à Adélard Godbout, va instituer en 1946 un salaire minimum à 600 $ par an, à un moment où il restait peu d'enseignantes qui ne gagnaient pas encore ce montant-là, mais on a retiré le droit à l'arbitrage aux syndicats d'institutrices. On admettait la défaite pour le 600 $ par an, mais on voulait s'assurer de pouvoir limiter l'augmentation future des salaires. Ça, c'était un recul, mais on est passé en 10 ans de près du quart des enseignantes qui gagnaient moins de 200 $ par année à un salaire minimum de 600 $ et une bonne part du crédit revient à Laure Gaudreau. 1946 marque aussi la fin de la Fédération des institutrices rurales qui fusionne avec la Fédération des instituteurs ruraux et avec la Fédération des instituteurs et institutrices des cités et villes pour former la Corporation générale des instituteurs et institutrices catholiques du Québec, fort heureusement abréviée CIC, qui deviendra plus tard la CEQ puis la CSQ. Laure Gaudreau siégera pendant près de deux décennies au conseil de l'administration de la CIC, tout en étant active sur le terrain, notamment comme présidente du syndicat des enseignants de Charlevoix. En 1965, alors qu'elle était septuagénaire et que, d'après ce que j'ai pu lire, la génération montante des syndicalistes trouvait qu'elle était un peu restée dans les années 1940, elle quitte la CIC. Elle va consacrer beaucoup de son temps à l'Association des retraités de l'enseignement du Québec, organisation dont elle était une des fondatrices, et sera active jusqu'à quelques mois avant son décès, survenu en 1975.